Je vous remercie pour votre fidélité, votre amour pour le Seigneur. Bon, quel sujet Pâques, hein? Mais dis donc, chaque évangile, à peu près les 3 ou 4 derniers chapitres, c'est consacré à cet événement. Matthieu, il représente Jésus comme étant le roi. Alors, il donne cette lumière sur cet aspect de Jésus. Marc, il présente Jésus comme étant le serviteur. Et c'est un autre aspect. Les autres événements, il parle plus en détail par rapport à cela. Luc, c'est le fils de l'homme. Comme étant docteur, il a dit, c'est vraiment un homme. Christ qui fait Dieu, qui fait homme. Et puis après, Jean qui le met une quatrième lumière. Et là, il présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Alors, quel bel événement. Et là, c'est vrai que nous aurons beaucoup de mal à pouvoir décortiquer ou même de lire. Mais j'aimerais vous encourager de prendre du temps. Bon, on a un férié demain, hein? Soit cet après-midi ou quelque temps. Lis toute l'histoire. Ça ne peut pas nous faire du mal. Alors, j'aimerais vous encourager de faire cela. Ce qui m'a touché cette fois en lisant ces passages, c'est, Claude, il a souligné, il a parlé de cette, même des chrétiens aujourd'hui qui sont persécutés. Et justement, les frères et les sœurs, les disciples de Jésus, la Bible dit qu'il avait la crainte, il avait peur. Bon, bien entendu, et même leur foi était mise en question. La différence que nous avons entre eux et nous aujourd'hui, c'est que là, ils ont vu le Seigneur. Et j'avais un frère en Calédonie qui m'avait dit, mais là, ils avaient un avantage. Hein. Ça, c'était beaucoup mieux. Hein. Parce que si ça ne va pas, je pouvais chercher Jésus. Je peux lui voir, je peux le toucher. Il peut m'embrasser. C'est vrai. Mais la Bible dit que heureux et même une bénédiction particulière pour ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Et c'est nous. Alors, nous allons voir quelques passages. Commençons avec Marc chapitre 16. Est-ce que, Béatrice, est-ce que tu peux lire pour nous ce passage, s'il vous plaît ?
Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter.
Quand même, on a vu les mots peur, fuir, effroi, incrédulité, ils n'ont pas cru. Pourtant, Jésus les a bien avertis. Il faut que je meure, il faut que je paye le prix pour le péché. Et après, je vais ressusciter. Même là, après, quand ils étaient tous ensemble, Jésus les a repris de l'incrédulité. Voilà notre passage dans Jean chapitre 20. Tout à l'heure, Claude nous a fait lire le verset 19, à partir du verset 25. Marie, s'il te plaît.
Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point.
Il parle de qui ?
Thomas.
8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Prions, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, comme les disciples t'ont demandé déjà à plusieurs reprises, Seigneur, nous nous joindrons avec eux quand ils ont dit « Augmente-nous la foi ». Seigneur, que nous soyons les hommes et les femmes avec la foi persévérant, la foi en toi, au nom de Jésus. Amen. Bon, des fois dans notre vie, c'est bien de se remettre en question. Il y a une question que je trouve que c'est une très bonne question, que je me pose souvent. Cette question est ici. Notre vie est-elle agréable à Dieu? Si je me pose la question, Charles, est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Vous pouvez vous poser la question. Est-ce que mes pensées sont agréables à Dieu? Est-ce que mes paroles sont agréables à Dieu? Est-ce que mes actions sont agréables à Dieu? Est-ce que mes réactions sont agréables à Dieu? Je ne vais pas vous demander de vous lever la main pour dire « Oui, je sais que... » Parce que je pense que si on cherche vraiment dans la profondeur... Mais déjà, si vous êtes là ce matin, ça c'est un témoignage que vous cherchez. Et votre souhait, c'est que votre vie soit agréable à Dieu. Mais selon la parole de Dieu, on peut être là ce matin, et que même, malgré notre désir d'y être, et d'être agréable à Dieu, c'est pas assuré que notre vie est agréable à Dieu. Il y a un élément dans la parole de Dieu qui nous parle de cet aspect, et sans cela, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Lisons ensemble Hébreux chapitre 11. Levez-vous, s'il vous plaît, par respect de la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore. Quoique mort. C'est par la foi que Hénoch fut enlevé, qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Quel témoignage? Qu'il était, dis-le avec moi, agréable à Dieu. Maintenant, le verset 6. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le mot est fort. Oui, dit, car or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand je dis que quelque chose est impossible, ça peut être pour moi. Quelque chose qui est impossible pour moi, peut-être c'est possible pour vous. Mes chers amis, quand Dieu dit que quelque chose est impossible, c'est impossible. Il dit ailleurs, les justes vivra par la foi. Et même, il y a une des traductions qui dit, même tout ce qui n'est pas sujet de la foi est péché. Dieu, il veut que chaque instant de notre vie, qu'on vit par la foi. Alors, nous avons vu dans le verset premier, qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, à la démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas si, et même d'ailleurs, dans un autre passage, il a dit, si on le voit, on n'a plus besoin de la foi. Même il dit qu'il y a les trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, dès qu'on voit Jésus, et l'espérance, ça prendront fin. Mais l'amour, ça va continuer jusqu'à perpétuité. La foi, et Dieu y demande. Et là, il a mis ses disciples à l'épreuve. Ils ont dit, mais là, restez fermes. Là, je vais mourir, mais je vais me ressusciter. Et là, on n'est pas là ce matin pour les critiquer, hein. Parce qu'à combien de reprises notre foi aussi, quand on était mis aux chaudières des épreuves, et que là, la tempête des épreuves, qui et les vents qui tournent autour de nous, et puis là, notre foi faiblit. Et Dieu, ici, il veut quoi ? Il veut que nous gardions notre foi en lui. Ça m'a fait penser de la chute de Niagara, une vraie histoire d'un homme qui a tendu un câble, sur une partie des chutes de Niagara, d'un point à l'autre. Et puis, il y avait, quand il a commencé à faire cela, il y avait un groupe de personnes qui sont venues autour de lui. Il a dit, mais combien de vous pensez que je peux traverser cette file, faire un demi-tour et revenir ? Pas beaucoup de monde. Alors, il l'a fait. Il a monté sur l'île, il a traversé, il a fait demi-tour, il est revenu. Ils ont applaudissé, bravo, c'est magnifique, c'est extraordinaire que vous avez pu faire cela. Il a dit, mais maintenant, combien de vous pensez que je peux prendre une brouette et mettre les 70 kilos de cailloux dans la brouette, poser sur le fil, traverser, faire le demi-tour et revenir. Il y avait beaucoup plus. Alors il a dit, ok, je vais le faire. Alors il a mis la brouette, il a fait le trajet, il a fait le demi-tour, il est revenu. Ils ont pensé, c'est magnifique, tu arrives à faire. Alors il a posé la question maintenant. Combien de vous pensez que je peux mettre un homme qui pèse 70 kilos dans la brouette? Tout le monde levait la main, oui, c'est possible. Il a dit, ok, qui veut être dans la brouette? Il n'y avait que le gars qui était là, qui est un peu son agent, si on peut dire comme ça. Il a dit, je crois. Il a monté dans la brouette. Et là, il l'avait emmené à côté. Il a fait demi-tour et revenir. Voyez la différence entre croire et croire. On peut croire par les faits, comment on dit ça, historiques, que Jésus est venu, qu'il est mort pour le péché, mais on ne peut pas mettre notre confiance totale. Et même nous, en tant que chrétiens, nous pouvons accepter le Seigneur, et quelqu'un a dit ceci, il faut juste un tout petit peu de foi. Et cette petite foi, ça va emmener votre âme au ciel. Mais une grande foi va emporter le ciel dans nos âmes. Que le Seigneur augmente notre foi. Combien de reprises dans la parole, Jésus, quand il a vu les personnes qui ont agi par la foi, ça lui était agréable. Est-ce que vous pensez à une occasion ? Je vais commencer, il y avait une dame qui avait une perte de sang. Elle suivit le Seigneur. Elle n'était pas juive. Alors elle a dit, « Maître, pour moi. » Et Jésus a dit, quand même une parole que j'ai toujours trouvée dure, mais Jésus connaissait le cœur, il voulait qu'elle sorte ce qu'elle dit. Mais Jésus a dit, « C'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. » Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oui, Seigneur, mais quand même, les chiens, Ils mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Et Jésus dit, ta foi est grande. Vous rappelez le monsieur qui a amené son... Il est venu vers Jésus en disant, mon serviteur est malade. Il a dit, Jésus a dit, mais il est où? Ah, mais Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes chez moi. Dis le mot. Dis le mot. Et mon serviteur sera guéri. Et Jésus est ému, a dit, par Dieu. Il a la foi, lui. Et nous, la foi, c'est de vivre chaque jour d'une dépendance complète des promesses de Dieu. Dieu le dit, je le fais. Est-ce que vous avez pensé à d'autres personnes? Le paralytique. Voilà. On va arriver à celui-là en clôture. Il y a d'autres?
Les lépreux.
Les lépreux. Voilà. Je pense aussi à celui, l'aveugle. La Bible dit, quand l'aveugle, il voulait suivre le Seigneur, et puis les autres, ils ont poussé, et Jésus a dit, non, laisse-lui venir. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Mais un aveugle qui jette son manteau, et pour retrouver, il était sûr que le Seigneur va le guérir. La foi. Jésus a dit même dans une reprise, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour être sauvé, il faut la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi dans ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné. La Bible dit en Romains 6, le verset 19, « Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la roue détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'avais vu les personnes lors de mon voyage qui étaient assez radins. Ils étaient, j'ai peur peut-être si je dépense trop. Et là, ils étaient les personnes qui étaient assez tristes. Mais après, j'étais dans les autres églises. Et là, il y avait un esprit de générosité, un esprit de « Seigneur, ce que j'ai, c'est ce que tu m'as donné. Et Seigneur, je suis prêt à le partager. » Et là, c'est comme s'ils ont donné, et puis après, à chaque fois, Dieu remplit la caisse. Et Dieu, il fait bien ça. Il dit ailleurs, « Donnez, cela vous sera donné, secoué, pressé. » Les hommes, hein, il dit quoi? C'est avec la même mesure que vous donnez, cela vous était accordé. C'est une question de notre cœur. Vous vous rappelez, lors de notre retraite à la Castellet, on a parlé de cette veuve. Vous vous rappelez la petite dame qui est venue à la caisse. Hein, on a bien décortiqué, j'ai beaucoup apprécié, je reviens souvent sur ça. Cette occasion, on a pu décortiquer ce passage ensemble. Mais vous vous rappelez bien que la Bible dit que quand les autres, ils ont donné, et plus tard Jésus a dit, ils ont donné de leur superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et vous vous rappelez bien, ils ont donné une phrase après, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire quoi? Elle a dit, Seigneur, tu as tout donné à moi, alors Seigneur, je donne tout à toi. Seigneur, ma vie est entre tes mains. La veuve de Sarepta, vous rappelez bien. Le prophète, il a dit, fais-moi un gâteau d'abord. Elle a dit, mais il n'y a qu'un peu d'huile et pour du farine, juste pour moi, le gosse, et puis après, on est moi. Fais-moi un gâteau d'abord. donne à Dieu d'abord. Et là, tous les matins, oh, il y a encore. Et le soir, et hop, il y a assez pour ce soir. Il y a assez chaque fois. Quand on met Dieu en premier, la vie de tous les jours, même dans la prière modèle que Dieu nous donne, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Nous sommes des personnes qui aiment bien avoir un petit matelas, hein, d'être un peu à l'aise, d'avoir un peu de fond dans la banque pour être à l'aise. Mais Dieu nous dit de prier, Dieu donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi, Seigneur, aujourd'hui. Et là, on peut avancer la journée comme ça, en demandant à Dieu et avec la foi et la confiance de savoir que le Seigneur, il va nous donner ce que nous avons besoin. Même il a dit à ses disciples, quand vous devez vous présenter devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas les, ne vous préparez pas les discours, car le Seigneur vous donnera le mot au bon moment. Ce n'était pas pour les prédications. J'avais les élèves en Calédonie, ils disaient, mais le Seigneur va me donner le mot au dernier moment. Oui, mais il faut quand même chercher un peu. Hein. Mais pour se défendre, le Seigneur, c'est entre tes mains. Donne-moi les paroles, donne-moi la, fais-moi grâce, donne-moi la... Je ne dois pas cogiter tout. Seigneur, ma vie est entre tes mains. C'est une bonne position, c'est une belle position d'y être. La force et la sagesse. Écoutez Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à son avocat? Non, il manque à sagesse. Il demande à Dieu qui donne à tout simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté de l'autre. Quand on ne sait pas, on doit se reposer dans les bras du Seigneur. Le Seigneur, j'ai fait ce que tu as demandé de moi. Là, il y a toutes ces circonstances, je ne comprends pas, mais c'est entre tes mains. J'ai mis ma foi, ma confiance en toi. Pour la victoire sur l'influence du monde. Ça, c'est un de mes versets préférés. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire. Ah, j'aime bien ce mot. Hein. Quand nous voyons notre monde dans son état, avec toutes ces tendances, l'homosexualité, toutes ces... l'immoralité autour de nous, et les gens nous... méprise en disant, mais pourquoi vous allez parler à celui-là que vous ne voyez pas, comme disait Claude tout à l'heure. Oh, chers amis, on ne le voit pas, mais on sait qu'il existe. Je lui ai parlé ce matin, vous aussi. Oh, il existe. Et là, nous sentons un peu dans une terre étrangère. Nous sentons un peu dans la minorité. Par rapport à toute cette influence du mal qui vient vers nous. Mais la Bible dit la victoire. La victoire qui triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'armure du chrétien en Éphésiens chapitre 6. C'est quoi? Le bouclier de la foi. Et ça fait pourquoi? Éteindre les du malin. Et quels sont ces traits? Il dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu a dit? Il a commencé par là, dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Oui. Ça suffit, laisse-moi tranquille. Il cherche toujours à mettre un point d'interrogation où Dieu a mis un point. Et puis dernièrement, pour emmener les gens au Seigneur, en Marc chapitre 2, le verset 5. Nous avons l'histoire que Marie-Jo a parlé. C'est cet homme, le paralytique. Le paralytique, il était là, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait rien faire. Il savait que Jésus était en ville. Il était dans la maison. Et puis après, il a dit, je veux bien aller à Jésus, mais je ne peux pas. Il y avait 4 hommes qui ont dit, on va te donner la main. Ils ont porté, hein, peut-être il avait, comment s'appelle les trucs,
encore,
voilà. Il y avait comme s'il y avait chacun un coin. Ils ont emmené, et quand il arrive à la maison, il y avait un obstacle. Est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours des obstacles quand on essaie d'emmener les gens au Seigneur? Bon, lors de mon voyage peu élargi, j'ai eu l'occasion quand même de témoigner. J'ai dit, mais peut-être c'est pour cela. J'ai parlé avec une jeune dame de Mexique. Elle va à Prague, actrice, 25 ans. J'ai dit, est-ce que tu connais le Seigneur? Elle dit, non, je ne connais même pas. Mes parents ne m'ont jamais parlé. Elle n'avait aucune connaissance du Seigneur. Bon, j'étais obligé juste tout simplement de s'aimer un peu la parole. Donner les moyens que le Saint-Esprit puisse convaincre son cœur. Mais tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est juste d'emmener ces personnes à Jésus. Mais ces hommes, quand ils ont approché, ils ont vu l'obstacle. Mais ils ne s'est pas arrêté là. Et ça doit nous encourager. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, on va démontrer le toit. C'est pas un bâtiment comme ça, c'est pas comme une case en Calédonie, c'est une autre structure qu'ils avaient. Et mais la Bible dit, regarde bien le verset 5, il dit, Jésus, voyant leur foi, parlant de qui?
Les porteurs.
Et je peux vous dire que chaque fois que nous avons, même si c'est un tout petit peu de foi, Dieu le voit. Peut-être les autres, ils vont pas le voir, et ça ne les porte rien, mais Jésus va voir votre foi. Jésus a vu leur foi et dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il a dit cela parce qu'il y avait les païens, enfin les pharisiens là. Et là, ils ont posé cette question, est-ce que c'est... Et là, il dit dans le verset 9, quel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire... Lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce passage, c'est que ce n'est pas la foi de ces 4 porteurs qui a sauvé l'homme. J'aurais bien aimé, hein. Si c'est ma foi ou si c'est notre foi qui peut sauver quelqu'un, ça sera magnifique. Toutes nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, on va, Georges par exemple, hein, Béatrice, on va avoir la foi pour lui, là il va être sauvé. Ça serait magnifique, mais non, c'est individuel. Alors Jésus a dit au paralytique, lève-toi, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Maintenant, il a dit, c'est ta foi maintenant. C'est à toi d'agir. Est-ce que toi, tu vas avoir foi en moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vous pouvez imaginer qu'il aurait pu rester comme ça en disant, Jésus, c'est magnifique, hein? c'est très bien d'être avec vous, j'ai entendu parler de toi, d'avoir toute l'attention sur moi, mais Jésus, tu ne comprends pas ma situation. Là, j'étais comme ça depuis les années. Non, il n'est pas heurté à cela, il a franchi le pas. Il a dit, ses bras, ils ne marchent pas, Ça fait les années que j'ai essayé de bouger, ça ne marche pas. Et après, il a dit à tes paroles. À l'instant, il se leva. Il a fait un effort. Et ça a marché. Notre foi. Avons-nous foi en Dieu? Quand les difficultés se présentent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence à s'inquiéter? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on s'effraie en disant « Oh non, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, il faut que j'appelle un avocat. Oh, il faut que je me défende. Oh, il faut que... » Ou est-ce qu'on dit « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je ne comprends pas. Mais Seigneur, conduis-moi. Mais sache que ma foi est en toi. » Vous vous rappelez bien des trois amis de Daniel. Le roi ou le pharaon, il a dit, vous allez vous plier le genou et vous allez adorer mon statut. Non, merci. Mais on va vous faire brûler. Même pas. Alors, ils ont dit, bon, on l'a chauffé. Ils ont chauffé. Ils ont lié. Et après, ils ont eu une parole. Votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Il a dit, notre Dieu que nous servons avec fervence, il est capable de nous le délivrer. Mais sinon, j'aime bien cette phrase. Mais sinon, sache que tu n'as pas plié le genou. C'est un seul lieu. On est que pour le Seigneur. Le sinon, c'était quoi? C'est pas leur foi qui était en... On ne sait pas si c'est la volonté de Dieu. Mais sinon, sache que nous allons suivre le Seigneur. Qu'est-ce qui est la seule chose qui a brûlé?
Les liens.
Les liens. Et le Seigneur, il veut enlever ces liens qui nous emprisonnent. J'ai constaté que dans ma vie, aussi bien que dans la vie d'Anita, que le Seigneur a permis que nous confrontions notre plus grande crainte, la peur que nous avons qui... On a dit, mais Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que cela m'arrive. Et le Seigneur a permis, tu t'en rappelles? Et c'est pour faire quoi? Pour nous embêter? Non. C'est pour nous montrer que lui, il est plus grand que notre plus grande crainte. Et qu'une fois qu'on a passé par là, et qu'on a vu la présence de Dieu, qu'on a mis foi en confiance en lui, on peut être à l'aise pour le reste de la vie. Ah, tu n'as pas crainte? Non, tu sais, j'avais peur, une peur bleue. Je ne sais pas d'où vient le peur bleu. Il vient peur rouge? Non, comme bleu. Il est comme bleu. On avait un peu bleu que ça m'arrive. Et le Seigneur a permis afin que je puisse vivre maintenant en disant, bon, le Seigneur m'a aidé avec le plus pire, le plus mauvais, alors j'ai que du bonheur devant moi. Quel est l'état de notre foi? Seigneur, augmente notre foi. Pardonne notre incrédulité. Pardonne nos inquiétudes. Pardonne de t'avoir mis en question, de mettre en question ta force, ta présence, ta puissance, quand nous savons que Dieu, tu es un Dieu qui a vaincu la mort, le plus pire, le plus grave, afin que nous puissions avoir la paix. Et comme Jésus a dit à plusieurs reprises que nous avons vu ce matin, que la paix soit avec vous. Seigneur, c'est ce que tu souhaites pour chacun de nous, que nous vivons non pas dans la crainte, non pas dans l'incrédulité, non pas dans les inquiétudes, mais de vivre dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Conduis-nous, fortifie ma foi, fortifie la foi de mes frères, fortifie la foi de mes sœurs Seigneur, que nous soyons une église qui est conduite par la foi et par l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Claude?